RMC Entre les poteaux.
Arnaud Valadon.
Bonjour à tous, bienvenue pour Entre les poteaux. Pas de 49-3, mais un 53-10. Un succès majuscule historique, cette victoire à Twickenham du 15 de la France face au 15 de la Rose, ridiculisé devant ses propres supporters, ses Anglais évidemment. Ce match marquera jamais l'histoire de notre rugby, peut-être celle de notre sport français, mais quel crédit peut-on donner à la performance purement sportive de nos Français? Véritable démonstration ou concours de circonstances? On en débat aujourd'hui avec, à mes côtés, je suis vraiment chanceux, j'ai une ligne de trois quarts formidable. Évidemment, le seul qui a vraiment gagné à Twickenham, car il était sur le terrain lors du Grand Chelem en 87, Denis Charvet, bonjour.
Merci.
Tu sais que je me suis fait le résumé de cette rencontre.
Ouais, c'est pas,
la double
pas
croisée en sortie de mêlée.
Pas le même match que samedi.
Ah
mais...
non, mais 19-15. Ouais, et puis 19-15. C'était beau. Ouais. C'était beau titulaire, évidemment, Denis.
Dire, tu gagnes une fois à Twickenham, tu t'en souviens.
T'as encore des frissons quand tu y repenses un peu.
En plus de rugby, non, ça n'est exceptionnel. C'est pour moi, un des plus beaux stades, c'est Twickenham.
Sur les ailes, des fines plumes qui savent ce que c'est d'aller à la ligne. Wilfried Templier, la voix du rugby sur RMC. Salut Wilfried.
Salut, il est fort Christophe Cessieux, il arrive à imiter Arnaud Valadon, c'est vraiment fort hein, quand même, hein. T'as vu ça?
On le salue Christophe.
Salut Arnaud, bonjour à toutes et à tous.
Manu Massica, rédacteur en chef au Midi Olympique, bonjour Manu.
Salut Arnaud, bonjour à tous et je peux vous confirmer que pour n'avoir jamais gagné à Twickenham, toute victoire est forcément une référence dans le temple.
Avec d'ailleurs cette une du Middle aujourd'hui, roi d'Angleterre et Julien Marchand. J'ai l'impression de voir Guillaume le Conquérant avec le poing levé au milieu d'anglais.
Arnaud, hommage à Patrick Deriviani, le photographe du Midi Olympique. La photo est sublime, je tiens à le dire, pour ceux qui ne l'ont pas vue.
Merci Wilfried. Allez acheter Middle, prenez-en plusieurs si vous voulez.
Téléchargez-le.
C'est un numéro collector et... parce que c'était une victoire historique.
Et je vous ai parlé d'une ligne de trois quarts, donc pour accompagner Denis, notre deuxième centre, notre boule de démolition rochelaise, c'est Pierre Amiche.
Oui, deuxième centre, c'est très gentil Arnaud, mais bon, vu mes qualités de passe, je
c'est
préfère jouer devant.
C'est Danty, oui.
Oui, ouais, mais...
Non, mais t'as un petit côté destructeur, t'aimes bien, tu rentres.
Voilà, oui, c'est vrai, mais faites pas offense à Jonathan.
Tu perds fort. Un crunch donc mémorable pour son 110e numéro, et peut-être le plus beau depuis sa naissance.
Il y a Penaud qui récupère, qui va la laisser.
Attention,
il va la laisser.
Il va la laisser
sur ce coup de pied de Ficou. Oh, incroyable. Sixième essai français. 46-10. Les gens s'en vont. S'en vont derrière nous.
C'est le, comment dire, le coup de grâce. Tu vois, la 72e minute.
Regarde,
c'est
les face, Anglais quittent le stade.
Face à la stérilité
c'est
quand même anglaise.
Hein. Décaminé, sur deux contrats pour Penaud. C'est le septième et c'est français. Écoutez, ça gronde à Twickenham. Et Ramos qui dégage en touche. Et voilà, un essai de Ramos. Un doublé de Flamand, un doublé d'Olivon, un doublé de Penaud. On a mis fin à 16 ans de disette. Et on inflige historiquement la plus large défaite de l'Angleterre ici à Twickenham. Victoire des Bleus, 53-10.
Ah, on a les poils encore en vous entendant, Wilfried et Denis, c'était sur RMC. Plus large victoire de l'histoire contre l'Angleterre pour les Bleus, plus 43, et plus large défaite de l'Angleterre à domicile depuis ce 42-6 infligé par les Box, champions du monde en titre en 2008, avec à l'époque, vous vous souvenez, les Matfield, Botta ou encore Abana. Denis, l'émotion est évidemment forte et ça mettra du temps avant que ça se tasse, si jamais ça se tasse, mais pour toi qui étais au stade, est-ce que quelques jours plus tard, on relativise encore un peu plus par rapport à l'adversité et ce qui nous était proposé en face, c'est-à-dire cette équipe anglaise?
Ce qui est à prendre, on le prend toujours contre les Anglais. Il faut quand même être satisfait et puis être admiratif cette performance de l'équipe de France. Après, oui, il y a le débat, c'est de savoir si c'est l'équipe de France qui était très forte ou si c'est l'équipe d'Angleterre qui était très faible. Et est-ce qu'il y a un juste milieu, un équilibre au milieu des deux réflexions? Je le crois. Après, ça semblait assez irréel de vivre ce moment-là du stade face à une équipe d'Angleterre totalement...
ça t'a laissé sans voix un moment.
Abattu, totalement sans ressort, sans dignité presque. C'est presque ça qui me mal à l'aise, quoi. C'est-à-dire que on a envie qu'à un moment donné, cette équipe d'Angleterre, ben, elle se rebiffe, que même si elle n'est pas au même niveau que l'équipe de France, qu'elle a le même talent, mais elle n'a pas combattu, quoi. Voilà. Donc je suis très partagé et en même temps très évidemment je suis très heureux que l'équipe de France ait retrouvé son niveau collectif qui était le sien il y a 6 mois, un an.
C'est très français ça, parce que les Anglais, quand ils nous en mettent 40, ils sortent les mouchoirs, ils pleurent pour nous, quoi,
ouais,
je pense.
Oui, mais, exactement.
Oui, mais il y a la démonstration, il y a le rendu, Wilfried. On peut pas raisonner comme ça. Il y a toujours un rendu. Il y a toujours un visuel.
Oui,
c'est quand même un combat de boxe.
Mais à un moment dans le match, tu disais, il faudrait que les Anglais marquent pour revenir pour le match, pour le suspense. Mais c'est pas grave.
Mais pour moi, il n'y a pas eu match. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire, pour moi, il n'y a pas eu match.
Ont déboîté d'entrée.
Mais tu peux le penser.
Et ils n'ont pas de confiance. Ils cherchent de la confiance, les Anglais, depuis le début du tournoi.
Ce n'est pas être critique de dire que les Anglais ont failli. Ils ont failli dans tous les domaines. Je suis désolé. Revoyez le match dans tous les domaines. C'est-à-dire que.
Mais parce qu'on leur a pas laissé le temps.
Mais c'est pas un problème de temps. Les Anglais sont pas devenus si mauvais en si peu de temps quand même.
Donc je veux dire, dans la tête ils sont dans la rue.
Alors le malaise anglais, c'est autre chose. Si vous voulez qu'on en parle, on peut en parler. Mais ça vient d'autre part.
Je pense qu'il faut mettre quand même avant, en premier lieu, cette performance française avant.
Mais
de dire,
mais il n'y a pas de problème.
Dans un deuxième temps, oui, attention, les Anglais, c'était pas si
vendre,
fort.
Ça fait vendre du papier en plus.
Manu Massi. En parlant de papier, le middle, Manu, tu, dans ton édito du jour de ce lundi, tu parlais de ce côté irrésistible qu'on avait retrouvé chez nos Français et aussi cette forme de cynisme à vouloir faire mal jusqu'au bout face à des Anglais. Denis vient de rappeler, n'ont pas montré de caractère.
L'édito est très beau.
On a été très clinique, et puis on a été. En fait, on a fait le mixte de ce que cette équipe elle peut offrir de meilleur. Son talent, son culot, sa capacité à jouer les ballons à l'inspiration et en lecture, et puis également à respecter un plan de jeu. Quasiment à la britannique ou à la néo-zélandaise, tu vois, il y a dans la maîtrise.
En changeant des choses, Manu, en plus, par rapport au début du tournoi.
Exactement, on s'est adapté. Et c'est là où je te dis, on a certainement vu le meilleur de cette équipe à ce moment-là. Ne boudons pas notre plaisir et arrêtons de jouer les pisse froids. On a vu une très grande équipe de France. Peut-être que ça ne nous dit pas toute cette équipe de France, mais on a assisté à un match de légende. Pour moi, ça va être aussi fort que 99 contre les Blacks, que 87, la demi-finale de Coupe du Monde.
C'est pas possible.
Certes, l'adversaire.
Mais non, c'est pas là.
Mais bien sûr que
c'est.
Dans l'imaginaire collectif.
Mais oui, mais le match ne peut pas te faire dire ça, le match.
Denis, en termes d'émotion, ce match, il est irréel. Et on entre. Ce match va entrer au panthéon du rugby français. Ce n'est pas possible autrement. Toutes les réactions, tu ne mets pas 53 points à une équipe d'Angleterre, certes lénifiante, mais sans avoir quelques qualités et sans toucher le cœur des gens. Là, les gens ont été emportés. Je me souviens d'avoir été à Twickenham en 99, demi-finale contre les Blacks. C'était certes une autre opposition, mais on avait tous chialé comme des gosses à la fin du match parce qu'on avait vu quelque chose d'irréel.
Oui, mais ce jour-là, demi-finale, c'est pas la même chose.
Touche à l'irréel.
Oui, mais ce jour-là, c'est un miracle. Ce jour-là, les dieux du rugby sont tombés sur le terrain.
Vous en connaissez beaucoup des mecs qui ont mis 50 points aux Anglais chez eux.
Non, c'est pas ça que je te dis.
Non, c'est pas ça.
C'est simplement qu'il faut aussi relativiser vis-à-vis de l'adversaire. On a le droit d'être heureux. On a le droit de trouver que l'équipe de France a été formidable. On a le droit de dire, c'est une équipe de France retrouvée, avec des joueurs retrouvés. Je pense que c'est probablement le match référence de l'ère Galtier. Et on peut aussi être tout à fait objectif sur l'adversaire qu'on a eu à affronter. C'est-à-dire que je pense que l'Irlande aurait pu mettre 50 points à cette équipe d'Angleterre. Oui, la Nouvelle-Zélande aurait pu mettre 50 points à cette week-end. Équipe.
Mais qu'est-ce qu'on aurait dit? On aurait mis l'Irlande?
Oui,
j'ai une question pour Manu. Est-ce que pour toi, c'est un match référence, tout simplement?
Dans
l'histoire?
Dans l'ère Fabien Galtier.
Dans l'ère Fabien Galtier, et par rapport à la flèche du temps de Fabien.
Mais bien entendu, tu n'oublies pas que tu viens de perdre contre l'Irlande et qu'il fallait te relancer. Tu es allé gagner le match qu'il fallait en Angleterre, en ayant mené d'un bout à l'autre et surtout sans jamais rien lâcher du match. En d'autres temps, certaines générations, Denis, on aurait mis 20 points à la mi-temps et après, les Anglais seraient venus jouer les mains du guidon.
Mais c'est pour ça que...
C'est référence parce que cette équipe, elle a tué son adversaire d'un bout à l'autre.
Ça fait penser à l'Afrique du Sud qui était venue mettre 52 points aux Français.
Mais je
pense que c'est pas resté
dans l'imaginaire.
Là, on est en trompe-l'œil, c'est que l'équipe d'Angleterre n'a jamais été aussi mauvaise de l'histoire du rugby anglais. Je suis désolé de dire ça, ce n'est pas pour...
Peut-être, mais on est dans les livres d'histoire.
On est obligé d'être...
Bien sûr.
Non, mais Excusez-moi, on est dans l'analyse. Ou alors on se dit, on est très beau, on est très fort, on est champion du monde.
Non,
il y a un mois, il y a un mois,
on
est
en Irlande. On a dit ça.
Il y a un mois, il y a en Irlande, on a été balayé par une équipe irlandaise quand même.
Donc, on a su se relever. On te dit pas qu'on est champion du monde.
On a changé
des
choses.
Juste que
sur le niveau de l'Angleterre, on va en parler, messieurs. On va écouter Thibaut Flamand.
Attends, juste une chose. Excuse-moi, Arnaud. Parce que ça, j'ai une fulgurance que tous les trois mois, donc et encore. Denis, cette équipe de samedi, de la France, elle donne quoi en Irlande à Dublin? D'après toi, mieux qu'il y a un mois?
T'es sérieux?
Non, mais mieux qu'il y a un mois?
Mais je peux pas te le dire.
Non, mais réponds.
Mais justement, le match de
si tu dis, est-ce que l'Irlande aurait gagné en Angleterre? Est-ce que cette équipe de France, performante comme ça, comme samedi?
Mais elle est performante parce que l'Angleterre a été catastrophique. Il y a pas, excusez-moi, je sais pas, moi.
Mais c'est vrai, quand tu remportes 62 duels.
Tactique sur ce qu'elle a changé tactiquement.
Je vais vous dire, là où vous n'êtes pas conscient de la chose, c'est que les Français sont sortis du terrain pas fatigués. Pas fatigué, ça
pas
veut dire quoi?
Pas amoché comme en Irlande.
Non, mais pas amoché.
Bah oui, bien sûr.
Les mecs ont pu continuer une heure de jouer, alors qu'en Irlande, ils ont dit on ne pouvait pas jouer.
Bon, d'accord. Moi, je pense que tu leur manques de respect.
Denis, une chose toute simple.
Mais c'est la vérité du match, c'est pas la vérité du contexte, Wilfried. Je critique pas. Encore une fois, je dis, on a les meilleurs talents. Il y a pas de problème. L'équipe France, elle est magnifique, elle est sublime même. Mais je parle de ce match en disant, je peux pas dire que ce match est référence. Je suis désolé. Moi,
sur la flèche. Oh bah mince alors.
Bon, d'accord. Okay.
Ils sont très faibles. D'accord. Je suis d'accord avec toi. Ils sont très très faibles en face.
Messieurs, on va écouter Thibaut Flamand. C'est bien d'avoir le ressenti d'un acteur. C'était au micro de Bartoli Time dimanche soir sur RMC, Thibaut Flamand qui s'exprime et comment lui il a ressenti le niveau des Anglais sur le terrain.
C'était très bien préparé, que ce soit collectivement, psychologiquement, tactiquement, physiquement, on était prêts, on s'était donné rendez-vous, donc on était vraiment prêts pour faire un gros match et je pense qu'on les a un peu surpris là-dedans, peut-être qu'ils nous voyaient un peu affaiblis après notre défaite en Irlande. Je pense qu'aussi tactiquement ils avaient prévu de nous attaquer d'une certaine façon, de défendre nos attaques d'une certaine façon, et je pense qu'ils ont été surpris à ce niveau-là aussi. Je pense que c'est un ensemble de choses. C'est vrai qu'ils sont passés par des moments un peu compliqués récemment dans leur équipe. Donc voilà, je pense qu'il y a un peu de tout qui fait qu'il y a eu un gros écart ce week-end.
Wilfried, est-ce qu'on pouvait s'attendre à voir quand même les Anglais exploser comme ça? Certes, ils sont pas brillants sur le tournoi, ils n'ont pas une génération folle.
Ah mais oui. Si, on a eu, nous, je pense qu'on était trop prudents, hein, parce que même Denis, les jours d'avant, on se disait attention au pack anglais, tout ça. Moi, franchement, j'avais vu des matchs de l'Angleterre, j'avais vu au Pays de Galles, c'était les rucks mettaient 10, les ballons mettaient 10 secondes à sortir des rucks, le Pays de Galles était faible en face, ils ont des nœuds dans le cerveau, les Anglais, hein, ils ont changé de sélectionneur, ils veulent changer le jeu, revenir à l'identité, ils nous mettent Marcus Smith à l'ouverture. Alors, pourquoi faire? Si c'est, ouais. Marcus Smith, il jouait tout seul samedi, ouais, il allait dans un sens, dans l'autre, il était seul.
Dominé aussi.
Oui, non, mais pas de sa faute. Mais c'est pas le joueur qu'il faut pour le jeu qu'ils veulent faire.
Surtout pas en fait.
Non, mais je suis d'accord
donc,
avec toi.
Donc, bien sûr, Denis, je suis d'accord avec toi. Ils sont très faibles, les Anglais. Je suis d'accord. Mais il fallait les passer, les 53 points. Ça, c'est pas un claquement de doigts.
Peut-être la marge entre 53-10, quoi.
Non, mais ce qu'ils ont pris offensivement, surtout, le côté tactique, les petits coups de pied par au-dessus dans la zone derrière la défense, il y a des.
Non, mais là où l'équipe de France nous a rassurés, c'est qu'elle est revenue à un jeu conquérant. C'est-à-dire un jeu qu'on avait perdu depuis que c'était délité un petit peu depuis 6 mois, 8 mois. Souvenez-vous la tournée d'automne, souvenez-vous les premiers matchs du tournoi. On avait perdu le sens de la marche, il me semble. Et là, on est redevenu un jeu qui nous va bien parce que tout le monde sait ce qu'il a à faire. Tout le monde est lucide sur sa tâche. Et puis, on est conquérant.
Il y a deux changements majeurs quand même dans cette équipe. Oui, c'est le retour de Danti qui change tout,
oui, qui change
et le niveau de Romain Ntamack. Parce que Romain Ntamack, face à l'Angleterre, là, il y a quelques jours, c'est peut-être. Depuis le début du tournoi.
Aldrit, est revenu aussi.
T'es leader, Marchand, Aldrit. Mais je veux dire, la différence entre le Romain Ntamack des deux premiers matchs et le Romain Ntamack face à l'Angleterre, c'est pas le même joueur.
Mais avec un pack qui avance, attention. La différence, c'est que t'es dominant.
Ce qui change aussi, c'est que tu vas gratter des ballons et que tu récupères des ballons.
Oui,
l'arbitrage,
tu
faisais énormément de fautes à l'adversaire sur ces phases de jeu.
Oui, mais Manu, l'arbitre nous a aidé.
Cross, Danti. Ah bah ouais, mais ils nous avaient pas aidé contre l'Italie et contre l'Irlande, mais je sais,
mais c'est ça qui est bizarre, c'est-à-dire les arbitres
étaient peut-être été plus efficaces et
les Anglais moins efficaces.
Et voilà. On a été dominants physiquement.
Mais non, mais regardez les points de chute chaque fois qu'il y avait des rucks et tout. Il y avait 2-3 Français pour un Anglais. C'est simple. Ah, il y a quand même dominé. Le niveau physique a été et n'est pas le même. Je suis désolé sur ce match-là. Tu regardes les Français étaient tous au point de chute. Il y en a 3 ou 4 qui étaient déjà là. Et après, c'est pour ça qu'on récupère les ballons dans le ruck. C'est... parce qu'il n'y avait jamais de soutien anglais, en fait.
Cette équipe d'Angleterre, elle me fait penser à l'équipe de France des années 2012-2015. C'est-à-dire zéro confiance. On avait l'impression qu'ils auraient pu jouer 5h30 sans jamais marquer. C'est horrible, ouais, exactement. Ça fait penser à cette équipe-là. Et ce qui est terrible, c'est que la génération 2019, elle n'a pas beaucoup changé. Ils sont finalistes de la Coupe du Monde. Il ne s'est pas passé un milliard de trucs depuis.
Il y a des mecs qui ont joué une finale de Coupe du Monde.
Non, mais c'est ça. Et tu te dis, l'aspect psychologique, il est quand même déterminant.
Il y a quand même une crise dans le rugby anglais. Il y a deux clubs qui ont
déposé
le bilan. Il y a des joueurs qui ne savent pas où ils vont aller. Il y a quand même je pense qu'il y a une explication dans cette crise qui fait que les joueurs sont inquiets. Quoi. Je pense qu'il y a psychologiquement, il y a quand même un vrai problème, je le pense.
Il y a Andy Good, pardon Arnaud, il y a Andy Good qui a dit, c'est un habitué des crasses,
si raconté, celui-là, là.
Petite saloperie, ouais. Il a dit, c'est étonnant, la plus grosse branlée de l'histoire de l'équipe d'Angleterre, c'est avec Steve Borthwick sélectionneur, la deuxième plus grosse branlée de l'histoire, c'est avec Steve Borthwick capitaine. Donc bon, vraiment la classe, Andy Good, vraiment le petit coup de rap quoi, qui fait toujours plaisir.
Manu Massicard, est-ce que ce résultat en Angleterre fait de ce tournoi un tournoi réussi?
Ça va dépendre du match contre le Pays de Galles.
Vous avez 2 heures.
Je préférais les questions de session, en fait.
Non, mais t'as raison. Mais je suis d'accord avec toi, ça dépend du match du Pays de Galles.
Ça va dépendre contre le match du Pays de Galles. Si tu passes au travers contre le Pays de Galles, si c'est pas aussi abouti, forcément tu vas te poser des questions et on va se dire putain Denis il avait raison. Mais non, ce match où il change beaucoup de choses dans l'histoire du parcours de cette équipe de France pour la Coupe du Monde. On a gagné en Angleterre, bien sûr qu'il le fallait.
Parce que...
on a gagné en Angleterre, on a tapé un des candidats sur le papier, un des candidats.
Alors, Manu, je te rejoins dans le sens où ça, c'est rassurant, mais t'as quand même le même regard que moi sur les 8 derniers mois de l'équipe de France, quand même.
Mais bien entendu.
J'espère avoir son avis.
Mais c'est le regard.
Il fait du prosélytisme.
Pas du tout.
Non, il se renseigne.
Pas du tout. Parce que, non, mais ici, on n'est pas dans les bisounours, on est dans l'analyse.
Arrête de me dire ça.
On est entre les potos.
Parce que toi, quand on bat les champions du monde sud-africain, c'est pas bien. C'est pas assez bien.
On est dans l'analyse ici, là. On est pas dans
l'analyse. On a failli perdre contre l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud.
On revient dans la course.
Oui, on maîtrise.
On a su rebondir. Galtier avait dit il va falloir se relever après l'Irlande. Et bien là, je pense que tu t'es véritablement relevé et t'as retrouvé cette équipe de France de l'année dernière. Elle s'est tuée l'adversaire. Elle est froide. Si. Elle a retrouvé son rugby. Elle est quand même
conquérante.
Elle
fait plein de confiance.
Exactement.
On attendait quand même ça.
On
n'était pas inquiets, mais quand même, on attendait ce match-là.
Au passage,
Galtier le dit dans la vidéo des Bleus, là, le inside que la Fédé tourne. Galtier, il dit chaque tournoi, on doit avoir un match fort et on ne l'a pas encore eu. Jusqu'à maintenant, on était à 60%. On était moyennasse. Sortez un match. Et là, ils l'ont sorti.
Encore une fois, je t'arrête, Arnaud.
Arrêt
Buffet,
Il y a une interview
de Romain Ntamack dans Sud-Ouest qui est là-dessus, sur les critiques, et très offensif. Il parle des critiques. Il dit, on savait très bien qu'on se ferait critiquer après notre match perdu en Irlande. On était sur une série de 14 matchs sans défaite. On savait très bien qu'au moindre faux pas, on serait remis en question, que ce soit l'équipe, sa composition ou plein d'autres choses. On est passé outre, on s'est mis au travail, blablabla.
C'est
envoyer un message à quelques mois de la Coupe du Monde. Il dit, quand on sort des matchs comme ça, on envoie forcément un signal. On est resté focalisé sur ce qu'on a à faire. On a voulu faire taire tout ce qui se disait après le match face à l'Irlande. C'est ce qu'on a réussi à faire, je pense. Il dit.
Mais c'est la paranoïa qui se nourrissent de ça. C'est très bien.
Non, mais je voulais vous le dire. Mais ne crois pas. J'ai rarement vu offensif comme ça, Romain.
Pierre,
oui.
Mais si, je te. Je t'amène juste ce qu'il dit, c'est tout. Je te dis pas, il a raison, il a si, il a là. Je te
prie le fil conducteur.
Dans notre débat enflammé.
Pardon, allez-y, monsieur Valadon.
Monsieur Templier, la prochaine fois, c'est carton jaune, allez à 10 mètres.
Oui,
Pierre, dans le débat que l'on a en ce moment, très enflammé, vous m'avez dit, messieurs, Galtier a changé des choses. Quoi?
Oui, bah, ce qu'il a changé, c'est déjà l'animation. Le fait que Jonathan Danty puisse revenir, ça change tout parce qu'on a eu Gaël Ficou, premier attaquant derrière les phases de touche et de mêlée. Et ça, ça change tout parce que Jonathan Danty gagne tous ses duels. Déjà, c'est pas mal. Ensuite, sur l'organisation défensive, c'est tout bête, mais Antoine Dupont avait été utilisé en rusher sur les sorties de camp. C'est-à-dire qu'il allait, c'est lui qui allait gêner les dégagements et les sorties de camp. C'est plus le cas. Ça n'a pas été le cas contre l'Angleterre. Et ce qui fait qu'il peut défendre dans la ligne, ça change aussi quelque chose. Et puis,
ouais, on a été joué plus loin aussi. On a été joué plus autour après Ntamack qu'après Dupont. En fait,
ouais,
on l'a vu sur les renvois où on faisait toujours la même chose à remonter les ballons.
On était surtout très précis au pied pour une fois.
Ouais,
on avait un jeu au pied déficient les matchs précédents.
On les a surpris à jouer un peu sur les extérieurs, sur le deuxième centre.
Mais même le jeu était plus long, plus précis. Il n'y a pas eu de de défaillance à ce niveau-là. C'est ça qui a fait la richesse de ce match.
Manu, ce qui est bizarre, pardon, excuse-moi. Et ce qui est très étrange, c'est que les Anglais ont tapé, je crois, 7 fois sur la même zone sur Charles Olivon. Charles Olivon, il a dû faire 7 sur 7. Il a remonté tous les ballons à chaque coup de pied anglais. Et d'habitude, ils ont plus tendance, les adversaires, à taper directement sur notre 9. Qui passe après par Gregory Aldridge qui doit gagner des mètres. Et mine de rien, je pense qu'ils se sont un peu trompés sur les sorties de camp et sur l'occupation, les Anglais.
Même la pression n'a jamais été.
Ouais, ils sont
on n'a jamais eu de pression.
On
n'a jamais eu de
faire.
Pression, qu'elle soit au pied ou qu'elle soit. C'est ça qui est incroyable au niveau de cette faillite anglaise.
Ça commence à. Pardon, Denis, de te couper, mais ça commence dès le début du match à 10-0. Ils ont deux pénalités qu'ils ne tentent pas.
Oui, en plus.
Et là, tu dis, non, c'est pas possible.
Alors qu'ils sont nominés, tu as raison. En plus, qu'ils sont nominés, tu
bien sûr, tu reviens à 10-3, c'est pas le même match.
C'est peut-être pas le même match. 10-0 et 17-0 derrière. Et...
Enfin, y a 9 franchissements à 1 pour l'équipe de France, hein, la défense anglaise. Par contre, ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont 60% de territoire, quoi, quand même. Encore une fois, même dans un match comme ça, on leur remet 50, ils ont 60% de territoire. Et la possession, c'est moite-moite, hein, entre les deux. On les a franchis, plaquage cassé. Il y en a 26 côté français.
Mais c'est vrai qu'il faut saluer la sobriété du jeu de Romain Ntamack, qui a été très, très bon dans sa gestion de tout le match. Bon, après, c'est vrai que c'est plus facile quand on avance, hein, c'est évident.
Tu peux difficilement dire qu'il y a un joueur qui est passé à côté de toi.
Ils ont tous mais à ce poste-là, il a porté sa patte qu'on lui connaît et il a été très fort.
À l'image, Denis, de cette action de l'essai de Penaud sur le coup de pied de Ficou, juste avant, rappelle-toi, Ntamack qui récupère un ballon, il va sur Farrell. Il met un raflu sur Farrell et Farrell revient. Et au lieu il peut la donner, il vient lui remettre un raflu encore, quoi, vraiment pour le défier. Et après, Schistera comme ça, là, boum, le coup de pied de Ficou qui est presque dévissé, en plus, qui part un peu n'importe comment. Le rebond qui va bien et Penaud qui y va et le sourire. J'adorais la banane de Penaud sur ses deux essais quand il va dans le but.
Il aurait été anglais, on aurait envie de le défoncer. Il est français, je trouve ça génial. Voilà, c'est. Ouais, mais c'est très agaçant, ça me fait penser un peu à Armitage, c'est très agaçant.
Projetons-nous, messieurs, sur la fin de ce tournoi. Et peut-on croire encore à une victoire dans ce tournoi Destination 2023? Ça serait la deuxième de suite après le Grand Chelem l'année prochaine. C'est compliqué, il y a beaucoup de si, Wilfried, pour voir les Bleus gagner.
La première, c'est que l'Irlande perde contre l'Angleterre chez eux.
Oui, si l'Irlande gagne ou fait nul, il gagne le tournoi. Donc ça, c'est simple. Hein. Denis, t'as raison. Il faut qu'il perde. S'ils perdent avec 0 points, on n'est pas obligé de marquer le bonus offensif. Et à ce moment-là, il faut juste combler l'écart de goal average de 20. Ils ont plus 20. Ils ont 66 en différence. Nous, on a 46. Donc il faut marquer 20 points. Parce que s'ils perdent, ça veut dire qu'ils auront un de moins. Ils auront 65, évidemment, au mieux du mieux pour eux. Donc faudra gagner de 20 points pour être sûr contre le Pays de Galles. S'ils perdent avec bonus défensif, il faudra qu'on gagne avec bonus offensif. Et si jamais on se retrouvait à égalité au classement général, au goal average en plus, parce que c'est-à-dire plus 20, là, ils ont plus 20 pour l'instant, 66 et nous 46, si on était à égalité, ce seraient les essais qu'il faudrait prendre en compte. Et en ce moment, c'est égalité parfaite. 16 essais de chaque côté. Donc ça veut dire que on peut penser que voilà, si on gagne, s'ils perdent eux, ils ne marqueront pas le bonus offensif, donc moins d'essais que nous. Et donc on pourrait à ce moment-là gagner, mais.
Après, l'autoroute. Je ne sais pas si vous avez vu le
second. Vache quand même, parce que c'était chiant à expliquer, c'était chiant à simplifier, et l'autre il arrive et à la fin il me met un coup de bazooka comme ça, alors quand qu'il est là, les mains dans les poches, il est assis les mains dans les poches et il balance ça quoi.
Denis, est-ce qu'on y croit ou pas, ou est-ce qu'on peut y croire déjà?
C'est marrant parce qu'il y a le second de ligne irlandais hier qui a plus qu'à marquer sur l'essai du bonus offensif. Il me fait une passe, c'est absolument incroyable.
Horrible.
Parce que là le sort aurait été scellé.
Est-ce qu'on peut y croire? Bon, déjà il faut s'imposer très largement. simplement contre les Gallois. On jouera avant, hein, dans l'ordre des matchs. Irlande-Angleterre, c'est le dernier match de ce samedi où il y aura les trois matchs du Six Nations.
Je pense que tout le monde a été impressionné par la performance des Irlandais avec tous ces blessés en cascade qu'il y a eu pendant le match. Comment ils s'en sont sortis face à une équipe d'Écosse qui a réalisé une première mi-temps de feu, mais qui après a été usée par cette méthodologie irlandaise et qui est absolument incroyable. Et je vois pas, non, je pense que les Irlandais vont leur mettre 40 points. Je pense que les Anglais vont être balayés à Dublin.
Vous êtes tous unanimes sur le sujet, Pierre ?
Ben c'est peut-être là où on va mesurer la performance des Français, en fait. C'est au regard du match qui nous attend. Si jamais l'Angleterre, j'y crois pas énormément, mais résiste ou crée l'exploit à Dublin, à ce moment-là, la performance de l'équipe de France sera historique.
Ce serait dingue.
Ce serait fou, mais.
Ça serait dingue,
mais,
même, oui.
Mais c'est pas impossible. Tu sais très bien que quand tu t'es fait fesser. Ah non, je dis pas non. Que Rude.
Alors, il faudrait qu'on fasse une autre émission où je vais redire que la performance est.
Et majuscule. Réelle, ouais, on enregistrera tout le début. Ouais. C'est énorme ce qu'ils ont fait, les Bleus. Non, mais je ne crois pas au fait que cette équipe d'Angleterre va balayer la meilleure équipe du monde. Je vous dis simplement que sur l'orgueil, les Anglais, ils peuvent peut-être espérer exister.
Ils peuvent en prendre
un match 30. Sans.
Non, mais sur les Irlandais. Chandelle, bagarre, ils sont suspendus. Jusqu'à la Coupe du Monde, mais au moins ils ont posé leur.
Manu, qu'est-ce que t'en penses, Manu?
Ouais, qui va jouer? Marcus Smith? Si c'est Marcus Smith qui joue, on peut tout de suite arrêter. Quoi.
Je pense qu'il jouera pas. Non, il jouera pas.
N'oubliez pas que les Irlandais ont 6 blessés majeurs dans leur équipe. Vous allez me dire, contre la France, il leur en manquait 3. Mais là, ça commence à faire beaucoup. On arrive en fin de tournoi.
Ouais, mais ils jouent le Grand Chelem, hein. Attention.
Ils jouent le Grand Chelem à la maison.
Week-end de Saint-Patrick.
Week-end de Saint-Patrick.
Surtout ils ont quand même un Grand Chelem dans l'histoire dans leur histoire.
Ouais,
c'est quand même énorme.
Mais ne pas minorer la réaction de cette équipe d'Angleterre, parce que franchement, elle est humiliée là. Et Denis, t'as vécu
des humiliations
avec Fourou, tu sais.
Non, mais c'est pas.
Tu sais ce que ça peut être une semaine en enfer.
Ah non, mais il est évident. Que les Anglais vont se rebiffer. Après, je pense qu'ils sont incapables de rivaliser avec la méthodologie irlandaise. Je pense qu'ils vont être étouffés par cette machine de guerre qu'est l'Irlande, et que même si tu veux résister,
allez, peut-être à la mi-temps ça va être serré.
Oui, mais
un petit nul à la mi-temps, Denis.
Allez, si tu veux, mais après tu peux pas résister. Moi, je pensais que l'Écosse à la mi-temps, sincèrement, j'avais des espoirs. Je me dis quand même, cette équipe d'Écosse, elle nous bluffe.
Bah, ils matchaient, jusque-là.
Oui, mais à ce moment-là, ils ont explosé.
Ils peuvent avoir des regrets pourtant, les Écossais, parce qu'ils ont quelques situations.
Oui, ouais. Mais les regrets, c'est.
Dani Cipriani sur Twitter explique très bien le fait que ça se joue à 15 ou 20 cm sur une des actions où Finn Russell arrive à décaler.
Exactement.
Et en fait, si l'Écossais arrive à donner sur le pas,
c'est Van der Merwe, non? Je crois qu'il va au sol et qu'il garde le ballon au sol à 1 mètre de la ligne.
Et attention, Van der Merwe, il a fait un match catastrophique.
J'ai rarement vu
horrible.
Alors que ce mec est l'un des meilleurs
au
monde.
Horrible.
On est à la 30e, c'est ça, à peu près.
On sent, Arnaud, que c'est inéluctable un peu. Le grand chelem, il leur est promis, mais c'est pas. Non, puis ça fait un moment qu'ils sont à très très haut niveau, donc ils ont une confiance. Moi, il y a des blessés, effectivement, mais Denis t'en parlait, tu disais que l'effectif irlandais, enfin voilà, ils avaient plus de bancs maintenant, plus de profondeur, et que c'était pas un problème pour eux, et donc puis ce sera mérité en plus, hein, sur ce qu'ils ont montré.
Regardez le troisième centre, Doris qui est
très fort,
peut-être le meilleur 8 européen aujourd'hui. Ben, il est remplacé par le troisième ligne du Leinster, qui est énorme. Il fait un match, il rentre dans le parti, mais il est énorme, monstrueux, il est partout, il avance sur chaque ballon. Puis moi, ce qui me bluffe avec les Irlandais, c'est qu'ils sont pleins. C'est-à-dire que sur chaque impact, ils avancent.
Les supporters aussi.
Non, mais c'est incroyable. Non, mais tu auras les piliers, Furlong, tu auras tous les mecs qui jouent, ils avancent. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que tu es toujours sur la défensive, tu es toujours sur le reculoir avec eux.
Et puis,
c'est assez impressionnant.
Ils ont changé leur politique parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs d'origine étrangère, ce qui faisait très rarement, voire jamais.
Oui, ça fait une dizaine d'années. Néo-Zélandais de naissance.
C'est ça. Quand on voit Gibson Park qui va probablement être titulaire le week-end prochain, néo-zélandais, James Love, néo-zélandais, Hansen, australien, Aki qui est d'origine néo-zélandaise. Ils ont une ligne de trois quarts, attention les yeux, hein, c'est monstrueux, mais c'est malheureusement pour eux, peut-être pas aussi irlandais que les années précédentes. Voilà.
Revenons un peu sur nos Français pour terminer, Wilfried.
J'allais te couper. Non, mais c'est que on parlait des blessés. Les deux talonneurs sont incertains. Chian Keller, Callum Doris est incertain. Ringrose est vraiment blessé, une grave blessure.
Apparemment, Chian et Doris joueraient. Hein. D'après ce que dit le sélectionneur.
D'accord.
Il espère. Bon, bon.
Et Henderson. Henderson aussi est forfait le deuxième.
Ringrose est blessé. Il est.
Ah ouais,
oui, oui, KO. Oui. Après, nous souvenez-vous qu'il y a quelques années contre la France, notre ami oui, Sexton ne devait pas jouer. Il était KO complet et il avait joué. Donc, c'est la finale.
Ringrose, il est quand même.
Ça serait inquiétant quand même. Ça serait très inquiétant.
Puis il est quand même sorti sur la voiturette avec l'oxygène. Je suis pas. Et la
minère. C'est fini pour rien.
Je pense Saint-Tin qui rejoue cette année.
Revenons sur nos bleus et Fabien Galthié, le sélectionneur du 15 de France, qui après à ton micro Wilfried et à celui de Kevin Morand, eh bien se projetait aussi un petit peu sur cette semaine finale dans ce tournoi Destination 2023.
On est dans la compétition, nous. On n'a pas encore lâché le trophée. Nous, l'objectif, c'est gagner la compétition. On a trébuché, on a beaucoup appris. Et puis ensuite, bien sûr, dans notre construction, il y aura la suite et la compétition prochaine. Il nous reste encore un match à Paris, qui est très important pour nous samedi. Et c'est vrai que la prochaine compétition, ça sera la Coupe du Monde. Et évidemment, tout ce qu'on vit là, tous les matchs qu'on vit, toutes les atmosphères qu'on vit, positives ou négatives, elles nous servent, bien sûr. Elles nous servent à nous préparer, à progresser. On est une jeune équipe encore, je répète. On peut encore monter le curseur à tous les niveaux.
Et avec une nouvelle négative, Wilfried, c'est un forfait en deuxième ligne pour ce match contre le Pays de Galles.
Ouais. Paul Willems, qui est forfait, touché. Alors, ce que j'avais, c'est une cuisse, un ischio.
Il
faudra voir la gravité de la blessure, mais voilà, il ne peut pas jouer contre le.
Peut-être que Chaluro va être titulaire.
Ouais, ou Tao. Voir.
Ouais, mais quand tu connais Fabien,
les finisseurs.
Tao, c'est un finisseur, c'est ça?
Ouais, je pense.
Justement, Denis, est-ce que pour ce match, on garde la ligne directrice, avoir un 15 de départ qui bouge très peu, quasi identique sur tout le tournoi, ou on ouvre un peu plus le banc?
Non, mais c'est la politique de Fabien. Fabien, il change rien. Il a changé. Il a mis Jaminet parce que, au nom du groupe, il a mis Jaminet parce que ça l'a arrangé de le remettre dans le groupe et qu'il rejoue. Mais regarde, s'il n'y avait pas eu la blessure de Jalibert, il n'y aurait pas eu de changement. Là, on va être dans la même configuration. Ça serait logique que voilà qu'il participe d'un titulaire ou pas, mais bon, j'en sais rien, mais
bah voilà. Quand même Tao est bien plus installé dans ce groupe quand même, hein,
oui, mais finisseur regarde Falatea, Falatea il est toujours remplaçant,
il a réussi
mais Tao Fifino a un autre statut que Falatea quand
mais
même,
non parce qu'il mais quand est-ce qu'il est titulaire?
Je veux dire, il est depuis plus longtemps dans ce groupe.
Mais il n'est jamais titulaire. Le problème, il est là.
Pierre.
Oui, non, mais
on va faire un pari, on va faire un resto.
Oh là.
Ouais. Okay, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de resto, c'est bien.
Ouais,
ça.
C'est vrai.
C'est vrai, ça fait longtemps, on a faim un peu.
Non, mais après, c'est difficile à dire. Moi, je pense que Tao. En fait, rien ne m'étonnerait. En fait, s'il est titulaire, c'est assez logique. S'il est remplaçant, c'est ce qu'il a fait depuis le début. Quand on voit que Falatea se fait sauter par Aldeguerri, c'est pas forcément logique, mais voilà, c'est comme ça.
Si, c'est logique.
Au nom de la première ligue toulousaine.
Mais il n'y a pas que ça, de la tenue en mêlée, tout simplement, c'est logique.
Ah, mais Falatea, c'est pas non plus un homme en sucre.
Aldeguerri, c'est son point fort.
Voilà, merci Wilfried.
Ouais, mais il rentre contre l'Écosse. Aldeguerri, il sort du chapeau maintenant.
T'as pris des leçons de piliers par les deux pins là-haut. Non, mais sans déconner, ils n'ont jamais joué en première ligne de leur vie.
Soyez sérieux un peu, il y a un peu trop de bazar dans ce podcast. Non, mais c'est vrai en plus.
Oui, Manu, tu disais.
Non, mais moi, je me pose la question de savoir, Tao, est-ce que ça va être Antonio ou Aldeguerri et Falatea?
Oui, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait
en
pilier droit?
Moi, je pense que c'est
Antonio. Vous les spécialistes des piliers.
Bien sûr. C'est très bien que tu le dises, effectivement. Alors, on va vous dire.
L'ordre de l'apparition en première ligne au pilier droit peut conditionner la construction de la deuxième ligne aussi.
L'axe droit de la deuxième ligne.
Ouais. Exactement.
Mais Antonio va revenir, c'est sa place, c'est lui le titulaire. Oui. Donc, oui. Ça, c'est sûr.
Oui.
Après,
et donc, peut-être que tu auras intérêt à garder Falatea.
Ce sera encore plus dur de virer Falatea et de laisser Aldeguerri, je ne pense pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Non, mais si tu as Falatea pour terminer, peut-être que tu auras intérêt à avoir Tao pour garder Tao pour la fin du match aussi.
Puis c'est dur de sortir des gars du groupe quand ils ont mis 55 points en Angleterre.
Moi, je suis pas comme vous. Moi, je pense qu'Aldeguerri va jouer.
T'as des infos ?
Non, j'ai pas d'infos, mais je pense que.
On dit pas ça, Denis, alors.
Non.
Les gens attendent que tu aies des infos.
Tu
les renseignes.
Tu verras.
Denis.
D'accord.
Denis, est-ce que les Gallois peuvent nous embêter ?
Denis a dormi à Marc aussi.
Parce que quand
les Gallois peuvent nous embêter.
C'est comme l'Angleterre, c'est comme une bête malade.
Non, ils peuvent résister un moment. Voilà, mais ils exploseront.
Plus faible équipe du tournoi.
Ils exploseront parce que d'abord, on est revenu physiquement, on est revenu au top. Tu le vois avec un garçon comme Aldrit qui était plus performant et qui là tout d'un coup est redevenu le joueur qu'on connaît. Non, ils vont exploser. Je pense qu'ils vont en prendre 40.
plus faible 40 équipe du tournoi. 50. Ils se sont fait franchir 11 fois par l'Italie, c'est un record dans une nation du tiers 1. C'est jamais ça arrivé qu'ils se fassent franchir de façon nette 11 fois.
Non, ils vont s'accrocher, ils vont essayer de résister, mais ils vont exploser.
Avec voilà, une équipe moi, vieillissante encore, hein, depuis son retour, Warren Gatland, il fait confiance un petit peu aux vétérans qui sont là depuis 10 ans. Hein.
Bah, il fait un peu ce qu'il peut, hein, avec ce qu'il a.
Ah, il a juste... Pardon, Wilfried, excuse-moi.
Non, c'était juste la précision pour Aldrit. Le plus de ballons portés du match, 15 ballons portés pour dire on a retrouvé l'Aldrit conquérant. Et le deuxième français en distance ballon en main. Quoi. Thomas Ramos, normal, 96 mètres. Et Aldrit, 93, c'est énorme. Parce que imaginez les courses de Ramos. Imaginez ce qu'a fait Aldrit ballon en main. 3 mètres seulement derrière, 93 mètres. Donc voilà, ça en dit beaucoup sur sa performance.
Et Wilfried, il n'y a pas de hasard. Aldrit, ça fait 4 semaines qu'il était à la luzerne.
Ah bah on l'a sorti en début de match contre l'Écosse en plus. Donc,
Donc il a eu le temps de se refaire la cerise. Et certainement que la préparation physique amène les Bleus non pas au pic de forme sur l'Irlande, comme on le pensait au début, mais sur la fin de ce tournoi, tu retrouves des repères.
Galtier l'a dit de toute façon. Hein. Ouais. Il a dit qu'ils sont de mieux en mieux. Ça fait deux tournois. Voilà, ils savent que quatrième journée, cinquième journée, voilà, ça fait un moment qu'ils sont ensemble. Voilà, qu'ils progressent.
Juste très rapidement sur le rugby gallois parce qu'on l'a pas du tout abordé. C'est un rugby en crise pour plein de raisons. La première, elle est économique parce que
un peu comme les Anglais.
Bah, la différence, c'est que les Gallois ont aussi une crise de génération. C'est-à-dire que Warren Gatland a été à la tête de cette équipe pendant plus de 10 ans. Il a fait le choix de reconduire parce que la densité du rugby gallois n'est pas la même que celle du rugby anglais ou irlandais. C'est un tout petit réservoir. Donc, il s'est appuyé sur les mêmes pendant 10 ou 12 ans, à savoir Lewin Jones, Roberts. Et finalement, ces joueurs-là, aujourd'hui, sont trop vieux, tout simplement. Lewin Jones, il était écarté sur le dernier match face à l'Italie.
Ils sont restés.
Et aujourd'hui, ils sont épuisés. Et la crise économique, juste pour finir là-dessus, ça a eu des conséquences aussi sur les joueurs parce que eux ils se sont plaints auprès de la fédé, ils ont menacé de faire grève, rappelez-vous, contre l'Angleterre. La raison, elle est toute simple, c'est que les contrats fédéraux n'ont pas été signés pour la plupart des joueurs et qu'il y a des joueurs qui se retrouvent dans une situation qui est assez étonnante. Ils sont internationaux, ils font partie des meilleurs joueurs de leur pays et ils ne peuvent pas prendre de crédit à la banque. Et c'est des choses comme ça qui leur est insupportable. Il y a eu des négociations qui ont été menées pendant près d'une semaine avec Warren Gatland au milieu, le capitaine de l'équipe du Pays de Galles et la fédération. Ça semble s'être un peu apaisé, mais je pense que ça a laissé des traces dans cette équipe. Et puis la génération aujourd'hui qui avait été le plus loin dans le 6 Nations, la génération 2013 ou 2014, n'a jamais eu sa chance. C'est le cas par exemple du demi d'ouverture Owen Williams qui joue depuis seulement 2 matchs. Il a 6 sélections, il a 30 ans. C'est vous dire à quel point ça n'a pas tourné.
Et Pierre, l'année dernière à Cardiff, ils avaient presque 30 ans de moyenne d'âge dans leur sélection, pas loin de 50 sélections de moyenne, c'est très expérimenté, mais ils avaient 7 joueurs à plus de 30 ans qui sont toujours là. Il y a
deux ans, ils ont failli nous gagner au Stade de France, souvenez-vous. Hein.
Ouais, ouais.
On gagne à la dernière minute. Hein.
Oui, on leur mange le grand chelem, pour le coup. Les 7 du lin dans les arrêts de jeu.
En deux ans,
avec ces arrêts de jeu interminables.
Non, mais ils peuvent faire le grand chelem. Il y a deux ans, ils sont au fond du trou. Là.
C'est les Anglais, ils sont en finale de la Coupe du Monde
il y a 4 ans.
Ouais, ça commence à faire.
Les Anglais, là, ils ont quand même. Là, ils ont pris la main, le fossé, quoi. Ils sont tombés dans le fossé.
Manu, vous le disiez plus tôt, ce match contre le Pays de Galles, après cet exploit. Pour que le tournoi soit réussi, c'est même pas une victoire, c'est au moins un éclat, un plus 10, un plus 15, au moins deux essais d'écart ou pas ? Parce que si on se contente que d'une petite victoire entre 5 et 10, est-ce que... Voilà.
Ouais, quand tu vois ce que les Gallois ont fait pendant tout le tournoi, tu peux pas te contenter d'une victoire à 5 ou 6 points d'écart. Mais au-delà de l'ampleur au score, ça va être la manière et la capacité de cette équipe de France à maîtriser son match. À être aussi dominante et aussi lucide sur sa production. J'y reviens, c'est pas tellement ce qu'elle a réalisé contre l'Angleterre qui m'a impressionné, parce que l'Angleterre était faible, Denis l'a assez dit. C'est plus la manière avec laquelle elle a
le plan.
Tout dirigé et comment elle l'a construit et tout ce qu'elle a respecté d'un bout à l'autre. Jusqu'au bout, on n'est jamais sorti du match. Et ça, je connais pas beaucoup d'équipes de France qui aient su le faire dans le passé.
Et par rapport au match samedi, les gens vont attendre un festival en fait. À voir ce qui s'est passé ce week-end.
C'est pas évident d'aborder quand même.
Ouais, c'est vrai, mais les gens attendent au Stade de France.
Mais Galtier l'a dit.
Être comme des dingues en fait. Hein.
S'il n'y a pas 50 points, ils vont être déçus.
Non, mais même, tu vois, si on est à la 20e, 22e, que tu vois que c'est serré.
Est-ce que ce serait un échec? Ce serait un échec de ne pas mettre 50 points gallois.
Non, mais ça va être très dur parce que l'équipe de France, pour l'instant, n'a pas encore, dans son histoire, réalisé deux grands matchs de suite. C'est-à-dire qu'ils ont fait des très bons matchs, mais le calendrier, c'était souvent une grosse équipe, une équipe moyenne, une grosse équipe. Et sur le rare moment où le calendrier l'a permis, l'équipe de France n'était pas la plus flamboyante. Quand on a enchaîné Australie, Afrique du Sud, bon, c'était pas la meilleure version de cette équipe de France. Faire deux grands matchs, je sais pas si c'est déjà.
Grand Chelem l'année dernière.
Ouais, c'est ce que j'allais
dire. Avec l'Écosse, déplacement en Bali-Irlande, on va gagner en Écosse, on va gagner au Pays de Galles.
Non, mais je te dis pas qu'il y a pas eu des, il y a pas eu des grosses performances. Je te dis que deux matchs de suite de ce tonneau-là, je n'ai pas le souvenir.
Réussi de la première
oui,
à la 80e.
Tu veux dire abouti.
Voilà, deux fois 80 minutes pleines. J'ai pas le souvenir de ça. Après, peut-être que je me gourre. Hein. On peut regarder.
On bat l'Irlande l'année dernière 30 à 24 et la semaine d'après, on va gagner en Écosse 36-17.
Mais tu te rappelles donc, le 30 à 24 Le 30 à 24, tu peux très bien le perdre ce match-là. T'as pas une maîtrise écrasante. Tu rigoles ou quoi?
Bon, écoute, on fera une. Non, mais ils arrivent un peu comme cette année. Là, ils sont peut-être encore plus forts, les Irlandais. Mais l'année dernière, quand ils viennent, on n'emmène pas large. Hein. Il y a 19-7 à la mi-temps. C'est vrai que je suis d'accord. Ils reviennent, mais leur passer 30 points, je sais pas. C'est...
Denis, c'est.
On regardera ça.
Il va dire je suis trop supporter.
Wilfried vient à la maison, on regarde ça tous les deux.
C'est la phrase un peu bateau, mais notre propre ennemi est nous-mêmes. Et quand on voit que l'équipe de France, pour la première fois du tournoi, n'a pas été sanctionnée de carton, jaune ou rouge, est-ce que on pourrait nous retomber dans nos travers face aux Gallois, rien que par rapport au contexte, à notre arbitre?
Tu peux toujours, mais là on le voit au niveau des stats, au niveau de la discipline, on a été très peu pénalisé, on a été très très lucide. C'est la lucidité, ça vient aussi avec l'état de forme. Je pense qu'on est très en forme et que ça va aller, on va surfer sur la vague et que samedi ça va être un beau final et je vois pas comment les Gallois peuvent.
J'allais dire ça va être une boucherie.
Non mais oui, non mais je vois pas comment les Gallois peuvent résister même face à cette équipe de France qui est redevenue une équipe de France conquérante tout simplement.
Vous avez le nom de l'arbitre?
Je suis en train de le chercher.
Monsieur Nick Berry.
Nick Berry.
Ah l'Australien, ouais.
L'Australien et sachez que pour Irlande-Angleterre c'est notre ami Jaco Piper, le Sud-Africain.
D'accord.
Qui est aussi
fait. Jaco le poivre.
Mais Manu, pour toi, on a vraiment aussi
le coup
bien,
de coude, Vamaina, c'est lui.
On parlait tactiquement sur le fait qu'on ait maîtrisé notre partie, mais aussi au niveau des pénalités, de la discipline. Tu as aussi senti une équipe de France qui avait appris de ses erreurs, parce que ça nous a quand même pas mal pénalisé sur le début de tournoi.
Ouais, on s'est bien réglé sur les grattages et on attaque
les ballons. On en prend
12,
hein, quand même, hein. 11 là pénalités contre l'Angleterre.
Non,
12
non, non,
contre
dans
la France,
le jeu au sol. Dans le jeu au sol.
Ah, le jeu au sol, pardon.
Ouais, je te parle du jeu au sol spécifiquement. Je nous ai trouvé meilleurs et après, je sais pas si c'est 12 de pénalités. Bien sûr que c'est trop, mais je sais pas si c'est quand tu emmènes 50.
Ça c'est pas trop vu en tout cas.
Ouais, non, c'est ça. Les Anglais ont tellement été mauvais que derrière, on n'a pas vu tes fautes. Ouais, on a été mieux. On a été beaucoup plus disciplinés. Encore une fois, dans la conduite du match, moi, c'est ce qui m'a véritablement impressionné. Et puis. Là-dessus, il n'y a pas de hasard. On a moins coaché. Par exemple, un garçon comme Aldrit, il est resté d'un bout à l'autre du match. Et sur le dernier essai, si tu es aussi bien en place sur ce ballon et aussi efficace sur ce ballon en première main, pour le dernier essai de Penaud, c'est Aldrit qui joue super bien le coup, quoi. Donc, tu as gardé des joueurs qui pèsent jusqu'au bout. On a Lukou qui est rentré, Ramos qui était à l'ouverture. Franchement, c'était
Lukou.
Elle était
Lukou.
Ouais, Lukou.
Il est pas
égyptien.
Ouais, excusez-moi.
Il fait de la presse écrite, excusez-le.
C'est bien ça. C'est qui?
Vous êtes dissipé aujourd'hui.
Ouais, non. On était bien. Cette équipe de France, elle a raconté beaucoup de ce qu'elle est devenue et de ce qu'elle a réussi à reconstruire. Elle a un sacré tempérament, quoi. J'ai pas du tout répondu à ta question sur la
non, discipline. Mais c'est pas grave.
Je m'en foutais.
C'est la fin de cette émission.
Allez.
Est-ce que vous avez un mot, Denis, pour conclure?
Vous n'avez pas dire qu'il avait perdu des points, qu'il y avait. Non, il n'y avait pas un fil conducteur dans cette émission?
Oui, mais il y en a qui l'ont fait.
Un mot, non.
Il y en a qui ont un train à prendre.
Même pas cette semaine.
Pourquoi pas gagner le
Allez,
tournoi?
Allez, Denis, vas-y.
Allez, on y croit.
Allez.
T'es sérieux?
Avec j'y crois pas
que tu penses vraiment.
Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, messieurs.
Je l'ai crié.
Merci Humanis Massicard, merci Wilfried Templier, Denis Charvet, Pierre Amiche, et tel Dorian Ledegri. Je ne sais pas si je serai titulaire la semaine prochaine. Peut-être le retour de Winnie Atonos, messieurs.
Le final, c'est 15h45, mon cher Arnaud Valadon. Hein. 15h45, France Pays de Galles.
Évidemment, avec vous, Tchad de France, Denis Christophe.
Tu as été très bon, Arnaud.
Eh bien, merci.
Bravo, Arnaud. Bravo.
Bravo pour cette première.
Bravo.
Merci. J'espère continuer à être dans les 42. Allez, à la semaine prochaine. Messieurs, merci d'avoir été à l'écoute d'Entre les Poteaux. Ciao, ciao.